Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Vous prenez un décor de carte postale tout y est, le sable d'une finesse admirable. La mer turquoise que reflète un ciel du même acabit, on fait difficilement mieux dans le monde. Vous avez le bonjour de Maurice. Sauf que depuis 2 semaines, une grosse tache abîme le lagon, une tache bien crade, une tache de fioul. Un navire naufragé est devenu un continent au sud-est de l'île Maurice. Connie, habitante jointe par Caroline Baudry, possède une auberge sur la plage. Elle décrit la souillure.
C'est un cauchemar. C'est une substance noirâtre, épaisse, avec les gants que je portais hier pour pouvoir enlever. C'est chaud, c'est du carburant.
Alors des milliers de volontaires mauriciens ont afflué. Ils travaillent sans relâche à tenter de restaurer le bleu malgré l'odeur entêtante du fioul. Ils construisent des mètres et des mètres de boudins pour juguler. Ils utilisent des cheveux pour leur pouvoir absorbant. Les coiffeurs proposent des coupes gratuites. Cata en cours sur l'un des plus beaux décors de la planète. Le bleu aura-t-il le dernier mot ? Aujourd'hui dans Culture Média, l'agence France Presse au chevet de la pandémie de Covid, avec son propre comptage des contaminés et des victimes. Le data journaliste Simon Malfratto est avec nous, tandis que son confrère de l'AFP, Grégoire Lemarchand, vient nous parler des fake news du coronavirus. Comment vont les jours ? Le site indépendant qui raconte l'info en série ressent-il les difficultés actuelles du métier ? Les Garibertes sont nos invités, alias Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos. Côté culture, nous jouons ce matin l'agriculture. Le jardinier en chef du château de Versailles, Alain Baraton, vient nous apporter la fraîcheur indispensable en ces temps caniculaires. Culture Média d'été en direct jusqu'à 11h et ça commence maintenant. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Nous sommes en noir tous les deux.
Assorti. On ne s'est pas donné le mot pourtant.
Non, on ne s'est pas appelé, c'est pour repousser la chaleur. Il paraît que ça fonctionne. Alors, c'est
presque.
Bien beau,
ouais,
ces effets de mode. Mais place au journal des médias. Martin, qu'avez-vous sous vos méduses ?
Sous méduses ?
Sous vos méduses.
Sous mes méduses. De la musique pour le Liban, France Télé au Prud'homme, le Tour de France confiné et un podcast pour changer sa vie, rien que ça.
Les audiences du week-end. Non, on commence par hier soir.
Hier soir, d'abord, c'est TF1. Je me suis demandé si cette fois-ci, ça allait être bon. Hier soir, c'est TF1 qui s'impose avec son film Aux yeux de tous, 21% du public. France 3, juste après, qui ne démérite pas avec sa série Le silence de l'eau. C'est joli comme nom. Et puis enfin, M6 avec Capital, son magazine, 2 millions de téléspectateurs.
Et alors ce week-end, il s'est passé quelques bricoles.
Il s'est passé des bricoles. Alors comme chaque vendredi, d'abord, c'est France 2 qui s'impose comme chaque vendredi depuis plusieurs semaines. La 2 proposait pourtant une rediffusion de sa série Maman a tort, 2,1 millions de téléspectateurs. M6 s'en sort bien avec la suite de sa série Reef Break, 10% tout pile du public. En revanche, gros flop, je sais que vous allez être déçus, pour TF1 avec Cuisine Impossible. Les chefs Juan et Julien n'ont convaincu qu'1,5 million de téléspectateurs. Et
là, vous êtes déçus.
Mais alors attendez la suite, parce que la série noire continue pour TF1 samedi soir. TF1, écoutez bien, n'est que 4e chaîne de France avec le spectacle de Franck Dubosc. 6,7% du public. C'est simple, de toute son histoire, TF1 n'avait jamais fait aussi mauvais score en prime time.
En même temps, ça s'appelait 50-50, donc ils ont divisé l'audience par deux.
Ouais, enfin là, c'est plutôt 90-10. Enfin, c'est 6,7% de part de marché, imaginez. Bref, c'est France 3 qui brille à samedi soir avec Roche Noire, 22% du public.
Culture Média.
Martin, France 2 se mobilise pour le Liban.
Avec un concert de soutien prévu pour l'automne, France 2 n'aura pas attendu une semaine après l'explosion de Beyrouth pour s'activer en faveur des rescapés des 300 000 Libanais laissés sans toit. Selon le Parisien qui révèle l'info, c'est le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf qui doit trouver des artistes des deux pays pour monter sur scène. Quelques notes de musique pour
accuser. Je croyais que vous aviez Ibrahim.
Non, c'était juste pour l'ambiance, pour se mettre dans l'ambiance des notes
d'accord.
de musique, pour adoucir la peine de ces rescapés, collecter aussi un peu d'argent. Mathieu Chédid, dont le père, Louis Chédid, est d'origine libanaise, aurait dit oui. Bernard Lavillier également devrait monter sur scène. Il ne part pas beaucoup, Ibrahim Malouf, ces temps-ci, je crois que vous le savez aussi.
Si, il a parlé. Oui. Il a parlé à Julien Cottreau.
C'est vrai, bah il ne parle pas à moi.
C'est ça. On revient sur ces 3 licenciements au service des sports de France Télé. 3 journalistes sont accusés de harcèlement moral et sexuel. Ils nient et contre-attaquent. Et
Pierre-Étienne Léonard, reporter au service des sports, annonce aller au prud'homme. Le motif du licenciement est totalement infondé. Voilà ce qu'il dit. Enfin, voilà ce que son avocat dit à l'AFP. Même chose pour Alain Vernon, figure emblématique de Stade 2. Dans Le Parisien, il juge son licenciement abusif, incompréhensible, inadmissible. On le rappelle, au printemps dernier, Clémentine Sarlat, ex-coprésentatrice du magazine Sportif, donne une interview à l'équipe pour dénoncer le harcèlement et la misogynie dont elle aurait été victime. France Télé commande dans la foulée un audit et décide quelques mois plus tard de se séparer de ces 3 journalistes sportifs qui désormais donc vont au prud'homme, en tout cas pour 2 d'entre eux.
Alors là, vous m'avez écrit sport toujours, mais non. Le Tour de France...
Vous l'avez dit pourtant.
Ben oui, mais bon, pour dire non. Le Tour de France se tiendra du 29 août au 20 septembre et il n'aura pas la même saveur cette année.
Avec des présentateurs... confiné, la grande boucle sera commentée depuis Paris. Imaginez, pour la première fois dans l'histoire du Tour, les présentateurs ne suivront pas la caravane à travers les routes et les cols de France. Ils seront bloqués en studio, tout simplement, pour éviter tout risque de contamination avec le Covid.
Ça va être spécial. Le Figaro, le journal Le Figaro, plus cher.
Plus cher, après Le Monde vendredi, c'est donc au tour du Figaro d'augmenter son prix de vente. Il passe à 3 euros, c'est 10 centimes de plus. Le quotidien s'explique ce matin dans ses pages. Il doit chercher de l'argent avec la crise du Covid. Le Covid toujours.
Toujours. Aux États-Unis, les revenus sur Internet du New York Times sont de quoi ? Ont de quoi enjouer les patrons du quotidien.
Et eux n'ont pas augmenté leurs prix. Nous sommes au printemps, en plein coronavirus, vous allez me dire encore lui. Le New York Times sur Internet réussit l'exploit d'engranger 186 millions de dollars. Le quotidien, dans sa version imprimée, gagne seulement, pourrait-on dire, 175 millions de dollars sur la période. C'est 12 millions de moins donc que sa version numérique. C'est la première fois dans l'histoire du journal qu'Internet fait mieux que le papier. Le New York Times qui rassemble 6,5 millions d'abonnés, quel que soit le support. Et je suis en train de me rendre compte, ça fait beaucoup de premières fois dans l'histoire de TF1, du New York Times ou de l'équipe ce matin. Beaucoup de premières fois, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui, mais peut-être que vous avez écouté Jeanne Masse avant de venir, on ne sait pas.
Toute première fois.
Voilà. Ce matin, Martin, vous nous parlez d'un nouveau podcast. Faites-moi signe.
Et ça fait du bien au cœur de l'été, Pascal, parce qu'ici, pas de podcast d'actu ou revenant sur des affaires criminelles sordides qui vous empêchent de dormir. Je sais que vous écoutez ça, vous, avant de vous coucher. En fait, moi, signe, des femmes et des hommes nous racontent la rencontre qui a bouleversé leur vie. Il y a Catherine, je vous laisserai écouter pourquoi et comment en écoutant ce podcast. Mais Catherine, elle est sur le point de revoir son amour de jeunesse des années après la fin de leur histoire. Un soir, elle va même l'appeler extrait.
J'avais envie d'appeler, j'avais pas envie d'appeler, je savais pas quoi dire, est-ce qu'on allait se retrouver, se reconnaître, enfin toutes les questions qu'on peut se poser dans ces cas-là. Et puis je l'ai fait, un soir au crépuscule.
Des rencontres inattendues qui n'étaient pas du tout prévues, mais qui changent votre destin, c'est l'idée de ce podcast. Et si on pouvait tous faire en sorte que cela arrive dans sa propre vie, de provoquer la chance, c'est aussi l'idée des épisodes bonus de cet été, avec non plus des histoires inspirantes comme on vient d'entendre celle de Catherine, mais des psys ou des philosophes qui décryptent ces histoires, extrait de cet épisode du Cœur de l'été avec la psycho-patricienne Géraldine Prévost-Gigant.
Il y a des personnes comme ça sur notre chemin avec qui on a rendez-vous et à leur contact, on va avoir un déclic.
Alors Céline Pitlet, auteure de ces épisodes de Faites-moi signe, vous la connaissez peut-être dans un tout autre registre. Elle présente les journaux sur BFM TV. Elle nous explique pourquoi ces deux casquettes.
Il y a une partie de moi qui adore l'actualité chaude et qui adore cette adrénaline. Et puis il y a une autre partie de moi qui est très intéressée depuis toujours par tout ce qui est développement personnel, intuition. Le bonheur, la magie, la beauté, la surprise, l'inattendu, ça marche. Et c'est vrai que ça fait du bien de s'évader.
Faites-moi signe, un nouveau podcast est sur toutes les plateformes comme Spotify ou Apple Music. Je vous conseille, ça fait du bien.
Et il y a deux, donc Céline Pitlet. Hein. Elle est divisée en deux. C'est deux
50,
mois.
50-50, comme dirait Franck Dubois.
Voilà, ça fait pas beaucoup d'audience au final. Martin Cangelosi, merci beaucoup. Le journal des médias tous les jours. Mon
à
disque
demain.
Ce matin, à demain, Martin. Quand le boss baisse d'un ton, ça donne ce morceau canon. Bruce Springsteen sur Europe 1. Secret Garden. Oh bah tiens, bonne matinée à vous. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
C'est un travail sans doute à la fois méticuleux, au long cours et peut-être même démoralisant. Covid-19, depuis le début présumé de la pandémie, l'agence France Presse s'est lancée dans le comptage des personnes infectées et aussi des personnes décédées. Bonjour Simon Malfratto.
Bonjour.
Vous êtes data journaliste à l'AFP, c'est vous qui coordonnez cette collecte de données. Combien de personnes pour cette mission ?
Alors, l'équipe qui collecte les données à Paris, on est une toute petite équipe, on est 3-4 personnes, mais en réalité, tous les journalistes de l'agence France Presse travaillent sur ce sujet, puisque ce qui nous permet de réaliser ce comptage, c'est bien l'étendue de notre réseau, le fait qu'on a des journalistes partout dans le monde qui nous envoient à notre équipe à Paris les données, qui nous font remonter les données, les bilans des autorités.
Voilà, donc les informations remontent jusqu'à votre unité centrale. Est-ce qu'elles sont fiables à la source ? Est-ce que c'est un des problèmes majeurs que vous rencontrez ?
Alors, c'est peut-être pas le problème majeur qu'on rencontre, mais c'est un problème qu'on a en tête, bien sûr. Hein. On sait qu'il y a certains pays qui sont très fortement soupçonnables de maquiller les données, on le sait très bien, hein. il y a eu des soupçons...
Donc la Chine initiale, sans doute, déjà.
Il y a eu des soupçons sur la Chine, ouais. Il y a eu des soupçons sur l'Iran, évidemment, on peut citer la Corée du Nord, tous ces pays qui...
Bah, la Corée du Nord, vous avez des données ?
On n'a pas de données,
ah,
on,
oui,
a,
les, ça,
on
oui.
a des données comme quoi il n'y a pas de cas. Donc,
oui.
Ça pose question. Après, la majorité des pays font ça en toute bonne foi, ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Et c'est plutôt ça, la difficulté. C'est pas tant que les autorités essayent de cacher des choses, mais qu'elles soient en réelle difficulté pour relever les cas et détecter les cas.
Voilà. Alors, comment comptez-vous, puisque apparemment les pays n'ont pas le même système de comptage ? Il y a les victimes déclarées, est-ce qu'on compte les EHPAD ou les équivalents ? Est-ce qu'on compte les morts à domicile ? J'ai d'autres exemples encore. Comment être certain que les victimes annoncées ont bien péri du Covid ? Tout ça, ça crée un soupçon.
Alors, un soupçon, oui, une difficulté
une
en
difficulté,
tout cas.
Ouais.
Une difficulté. Effectivement, alors l'OMS a publié des consignes hein, qui sont plutôt bien suivies quand même par les pays. Aujourd'hui, notamment, aujourd'hui qu'il y a plus de tests, de capacités, voilà, que les tests se répandent dans le monde. Après, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on avait en tête. Par exemple, il y a énormément de questions qu'on se pose. Les pays ne publient pas seulement un chiffre. Souvent, les pays publient le nombre de cas confirmés par test PCR, les fameux tests PCR, le nombre de cas probables, le nombre de cas en EHPAD, comme c'est le cas en France. Voilà. Donc ça, après, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va prendre en compte. Nous, on a décidé de compter de manière large, entre guillemets, suivant les recommandations de l'OMS, un cas probable, si tant est qu'il est déclaré port probable par un diagnostic médical, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, on le compte.
Mmh. Que faites-vous des asymptomatiques, pardon ? Puisque par définition, la maladie n'apparaît pas, donc, mais elle est là quand même.
Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui se règle au niveau des autorités et pas au niveau de notre comptage. Hein.
Mm-hmm.
Nous, on prend les bilans fournis par les autorités.
Ou les déclarations. Voilà,
les déclarations. Très clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile de comparer les chiffres d'avril aux chiffres d'aujourd'hui. Puisque, par exemple, en France... En avril, les asymptomatiques n'étaient pas comptés, puisqu'ils n'étaient pas testés. Aujourd'hui, ils le sont plus. Donc, aujourd'hui, ils entrent dans les bilans.
Puisque vous parlez de la situation française, on parlera du monde juste après. Est-on certain, dans ces conditions, que les cas reprennent ? C'est ce qu'on semble constater aujourd'hui.
Alors, les cas détectés reprennent. En début d'été, il y avait quand même déjà des capacités de test, et il y avait moins de cas détectés. Voilà. Donc je pense qu'on peut comparer les données depuis juin à aujourd'hui. Ça me paraît assez correct.
Mm-hmm.
Quand je regarde les données, encore une fois, moi je suis juste data journaliste. Hein.
C'est pas mal déjà.
C'est pas mal, mais on va poser la question aux experts. Mais voilà.
Alors le monde, donc on n'est pas certain, mais on essaie d'être honnête et de comparer ce qui est comparable. Mais on se rend compte quand même que c'est très très compliqué cette histoire. Alors dans le monde, dernier chiffre, près de 730 000 morts dans le monde depuis fin décembre.
Mmh.
Plus de 19 millions de personnes infectées dans près de 200 pays. Ce sont vraiment les États-Unis qui sont les plus touchés ?
Ça dépend comment vous comptez. En nombre de morts
c'est
déclarés.
Pareil, ouais.
Oui, mais ça, c'est quelque chose. Parce que ces données-là, on compte les cas, les morts. Mais évidemment, on les analyse derrière. Si vous prenez uniquement le nombre de cas déclarés sur le pays, oui, c'est les États-Unis. Si vous prenez le nombre de morts décompté sur le pays, oui, c'est les États-Unis. Si vous prenez le nombre de morts rapportés à la population, Non, non, c'est pas les États-Unis.
Alors parlons de ça, parce que c'est très très frappant, depuis, je regarde depuis longtemps, depuis quasiment le début, si tant est qu'on puisse dater le début. En tête, la Belgique. Toujours ?
Toujours, hors micro-État. On a exclu les micro-États type Saint-Marin, etc., du comptage, puisqu'on estime que ce sont des zones extrêmement petites, qu'elles sont difficiles à intégrer et à comparer avec les pays.
Comment expliquez-vous que la Belgique, au nombre, lorsqu'on fait le ratio nombre de victimes, nombre d'habitants, arrive en tête ? Est-ce que vous comprenez pourquoi ?
Alors non, très clairement. Ouais. Voilà. Nous, c'est des questions qu'on se pose et qu'on peut soulever grâce aux données. Après, on ne peut qu'écouter les explications des médecins, des autorités de santé, etc. Une des pistes qu'ils avancent pour justifier ça, serait que la Belgique a, entre guillemets, extrêmement bien compté. C'est-à-dire que les Belges...
Donc ils comptent mieux, c'est pour ça qu'ils sont en tête.
C'est ce que les autorités disent. Ils disent qu'ils ont une politique de comptage beaucoup plus large, qui intégrerait tout le monde, pour ne pas passer à côté de certains cas, etc. Ce qui expliquerait le nombre élevé de cas par rapport à la de cas de décès par rapport à la population.
Simon Malfratto, y a-t-il quelques pays, je ne parle pas de la Corée du Nord, mais quelques petits pays ou grands pays d'ailleurs, sans cas de Covid ? Ça existe ?
Non. Pas dans ma... De mémoire, non.
Alors, les États-Unis les plus touchés selon certains systèmes de comptage, quels sont les pays les moins touchés au monde ?
Les pays les moins touchés au monde, ça va être beaucoup de petits pays hein, en ce moment, des pays qui ont su finalement s'isoler assez vite. Jusqu'à récemment, on avait le Vietnam qui déclarait peu de cas. Ces dernières semaines, ils déclarent 200 cas par semaine, c'est pas encore énorme, mais pendant 100 jours, le Vietnam n'avait déclaré aucun cas, par exemple. Parce que c'est des pays qui ont des régimes qui leur permettent de fermer les frontières, de s'isoler, de mettre des gens en quarantaine. Voilà.
Ouais, on ne sait pas si ils n'en ont pas ou s'ils ne les déclarent pas, c'est toujours pareil. Dernière chose, combien de temps allez-vous compter à l'AFP ?
Ça, c'est la grande question, ça. Ce comptage de cas, il est pour nous fondamental, parce qu'il nous permet, on compte les cas, les décès, les guéris, il nous permet plein de choses. Tant que ce sera intéressant, on comptera.
Merci beaucoup Simon Alfrato, data journaliste à l'AFP. J'espère qu'on peut vous croire, qu'on doit vous croire. On revient traquer les fausses infos après ça, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et après le comptage des cas de Corona, le comptage des fausses infos. Les fake news sous Covid prolifèrent aussi facilement que le virus, a-t-on l'impression. Bonjour Grégoire Lemarchand.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'agence France Presse, en charge des réseaux sociaux et du fast-checking. Contagieuses les fausses infos, diriez-vous, partant de coronavirus ?
Oui, c'est le mot. C'est vrai que depuis le début de l'année, on n'a pas arrêté, nos équipes n'ont pas arrêté. Et c'est vrai que passer le du fait qu'on soit sur une pandémie, sur une actualité mondiale qui concerne tous les pays, ça n'a jamais cessé. Alors effectivement, la typologie des fausses informations change au gré des semaines et des mois, mais c'est un flot incessant.
Quel est l'état de vos troupes pour traquer les fake news sur le coronavirus, évidemment ?
Alors aujourd'hui à l'AFP, on est près de 90 journalistes spécialisés dans la vérification et on va dire dans la veille sur les réseaux sociaux et sur les fausses informations. On est depuis le mois de février-mars, on va dire, on est quasiment à 100% sur la thématique du Covid-19. Et j'avais oublié de le préciser aussi, c'est 90 journalistes spécialisés, mais dans le monde entier, hein, c'est évidemment absolument pas uniquement à Paris. Et à l'AFP, on publie en 15 langues dans la traque des fausses informations.
Alors j'imagine que votre travail est très compliqué et sans doute pour un tas de raisons. Je vais en égrener quelques-unes. Vous voulez me dire vrai ou faux pour le coup. C'est un virus qui était encore inconnu il y a encore, disons, 9 mois, ce qui est très peu. Donc la difficulté est majeure sur ce terrain-là de la connaissance.
elle est majeure parce que c'est vrai que quand on fait du fact-checking sur le Covid, on doit se fier aux réponses des autorités évidemment politiques, mais surtout des autorités sanitaires, des chercheurs, des experts. Et c'est vrai que les connaissances sur la maladie sont mouvantes. Ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir il y a 6 mois, il y a 3 mois, mais aujourd'hui pas forcément. Les choses sont peut-être différentes. Il y a eu des changements de position. Et évidemment, on pense, et c'est un point de crispation majeure, et c'est un point aussi qui nourrit beaucoup de fausses informations, on pense à la position des autorités sur le masque, notamment en France, où au début du printemps, on nous expliquait que c'était réservé au personnel médical, et aujourd'hui, on voit bien au cœur de l'été qu'on généralise l'emploi, et aujourd'hui, même en plein air.
Mmh. Comment pouvez-vous rectifier une information si les virologues, les épidémiologistes et les autres sommités se sont beaucoup contredits ? Y a-t-il seulement une vérité, Grégoire Lemarchand ?
Il n'y a pas forcément de vérité, il faut effectivement être humble et ne pas dire aux gens, surtout pas, vous n'avez rien compris, vous êtes bête, vous êtes stupide de croire n'importe quoi, c'est de dire à ce stade des connaissances, à ce stade de la connaissance du virus, à ce stade des travaux des experts, des infectiologues, des virologues, etc., voilà ce qu'on sait. Et parfois, quand on voit une fausse information, on va dire attention, c'est douteux. On n'a pas aujourd'hui suffisamment d'éléments de connaissance pour dire c'est forcément comme ci ou c'est forcément comme ça. Et on donne le stade de la connaissance tout en expliquant que effectivement les choses peuvent varier et varieront peut-être à l'avenir, mais qu'aujourd'hui on est à un point où on ne sait pas davantage sur tel ou tel sujet.
Alors vous l'avez dit, l'un des supports numéro un des fake news en ce moment, c'est le masque. Alors je tente des affirmations. Le masque ne sert à rien.
C'est faux. Et à peu près là-dessus, il y a l'unanimité pratiquement de tous les chercheurs et de tous les spécialistes. Mais en fait, le masque, il faut bien comprendre que c'est pour se protéger, sa famille, ses amis, protéger enfin autrui dans la rue, dans les commerces, etc.
Mais vous en êtes
après,
sûr
personne. Oui, mais personne n'a jamais dit que c'était la personne n'a jamais dit que c'était la protection absolue. C'est du bon sens en fait, le masque. C'est comme de se laver les mains et de respecter la distanciation sociale.
Je vous provoque un peu, Grégoire Lemarchand, parce que c'est ça le problème quand on traque les fake news, c'est que les gens qui croient en ces fake news ne changeront pas d'avis, vrai ou pas.
C'est pas forcément vrai. Si vous voulez, à chaque fois que nous on a énormément à l'AFP Factuel, on a énormément de retours, de commentaires, de gens qui nous écrivent, qui nous posent des questions. Donc c'est plutôt rassurant. Donc effectivement, vous aurez toujours une minorité de gens qui sont convaincus que vous leur mentez, qu'à partir du moment où vous dites que quelque chose est faux, c'est que de toute façon c'est vrai. Mais ça c'est une minorité. Et il y a plein de gens qui sont dans l'interrogation, qui se posent des questions et qui vont venir vers nous spontanément, et en ça c'est rassurant. Alors on n'a pas toujours les réponses, parce que comme on disait juste auparavant, la science, les spécialistes n'ont pas forcément les réponses, mais il y a quand même plein de gens qui nous remercient, nous suivent, nous encouragent, nous poussent à faire davantage, et voilà, on voit vraiment les choses dans ce sens-là. Et il faut vraiment pas penser que ce soit une bataille perdue, même si parfois, je vais pas vous raconter d'histoire, parfois c'est un petit peu décourageant, parce que vous venez d'écrire sur quelque chose de faux, vous avez pris le temps d'écrire que c'est faux et de l'expliquer clairement et factuellement, et puis deux jours plus tard, vous avez une information quasiment similaire et qui à nouveau recommence à être virale.
Rapidement, l'un des pourvoyeurs numéro un, quasiment une spécialité de fake news, hein, c'est Donald Trump. Est-ce que vous passez encore du temps avec lui, sur lui ?
Évidemment, on a une équipe aux États-Unis qui évidemment travaille beaucoup sur ce que dit Donald Trump et ce que disent les partisans de Donald Trump. Mais après, nous, on ne se focalise pas sur des gens en particulier. On sait qu'il y a des communautés, il y a des personnes qui sont plus susceptibles de véhiculer des fausses informations. Mais après, on ne se concentre pas que sur lui. Évidemment, ça serait presque trop facile.
Votre fake news préférée en ce moment, pour terminer?
Je sais pas si j'en ai une préférée. Non, je vois que on en parlait, je vois que les masques, c'est vraiment un point un point majeur et que on a, depuis ces derniers jours, on a les masques, vous allez vous étouffer, les masques, vous allez avoir de la moisissure, regardez quand ils manipulent des virus, ils ont des combinaisons intégrales dans les laboratoires, donc comment pouvez-vous penser qu'un masque va vous protéger, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez, il faudra prendre le temps plus tard de revenir là-dessus, mais je n'aurais pas pensé à quel point les masques pouvaient autant charrier de fausses informations alors que ça semble un geste simple et anodin et de bon sens.
Eh bien, voyez. Merci beaucoup, Grégoire Lemarchand.
Merci à vous.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'AFP en charge des réseaux sociaux et du fast-checking. Comment vont les jours? Début de réponse, le temps d'écouter Oshi dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
La rentrée s'annonce compliquée pour le journalisme entre parutions portées disparues, plans sociaux à répétition et presse-papier étranglée sur fond de revenus publicitaires à la diète. Comment s'en sortent les pure players au modèle payant? Nous sommes ce matin avec les deux des co-créateurs du site Les Jours, je vais y arriver. Isabelle Roberts, bonjour.
Bonjour.
Raphaël Garrigos, bonjour.
Bonjour Pascal.
On vous appelle toujours les Garibets, entité à deux têtes. Il n'y a pas eu de sécession.
Non, c'est la fusion des deux.
C'est la fusion des deux, voilà. Il y a 4 ans et demi, vous lanciez le site Les Jours, le journalisme en série. Vous déclinez vos obsessions, site indépendant, sur abonnement, sans publicité. À l'âge de 4 ans et demi, ce qui est un âge à la fois modeste, mais quand même quelque chose, comment vont les jours, Isabelle Roberts?
Comment vont les jours? Alors, cette question appelle une réponse un peu paradoxale. Ça va bien.
Mais vous êtes vivant déjà.
Déjà, on est là.
Bah ouais, c'est vrai.
Ça va bien, mais la crise du Covid est quand même passée par là pour nous aussi. Alors là où c'est paradoxal, c'est que pendant le confinement, on a eu beaucoup d'abonnements. On avait offert 7 jours gratuits à tous et il y a eu des abonnements et de l'audience et ça pendant 2 mois à peu près.
Des gens vous ont découvert à cette occasion-là?
Les gens nous ont découvert et globalement sont restés. Le problème, c'est maintenant, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que l'après-Covid est beaucoup plus difficile pour plein de raisons. Il y a une sorte de syndrome post-présidentiel. Les journalistes connaissent ça. C'est-à-dire qu'après une présidentielle, les gens en ont ras-le-bol de l'actu.
Ça retombe.
Ils ont envie d'entendre parler d'autre chose. Et je pense qu'on subit ça. Et puis, il y a un effet crise économique. Et quand on est encore jeune, médias comme nous, et pas encore à l'équilibre, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on appartient à un grand groupe, on a quelqu'un derrière qui peut abonder le média. C'est comme ça que la plupart des médias, d'ailleurs, ont d'énormes pertes qui sont abondées. Nous, on ne peut pas. Donc, on a vraiment besoin d'abonnés. Donc, on va refaire une campagne à la rentrée, comme on le fait depuis quelques années. C'est des campagnes d'abonnement, en fait, où on appelle les gens à s'abonner à des tarifs préférentiels. C'est un peu une sorte de campagne à la Wikipédia, en fait.
Oui.
Pour rappeler que un site sur abonnement, sans publicité, indépendant, a besoin d'abonnés.
Raphaël Garrigos, depuis que je vous suis, j'ai l'impression que vous passez votre temps à demander aux gens de vous aider. C'est épuisant, non? Honnêtement.
Surtout pour eux.
c'est épuisant surtout pour les...
Rien n'est jamais acquis.
Acquis. C'est pas que c'est fatigant, c'est quelque chose auquel il faut se faire. Mais c'est-à-dire que quand on lance son propre média, on connaît très vite le prix de chaque chose, le prix d'un ordinateur, d'une chaise et d'un bureau. Et je peux vous dire qu'au jour, ils sont pas très chers. Mais il y a aussi une forme de pédagogie, effectivement, comme disait Isabelle au sujet de Wikipédia. L'analogie est bonne. Et ça rappelle que du journalisme...
Non, il y a une différence majeure. Wikipédia n'est pas payant. Wikipédia est gratuit.
Wikipédia est gratuit, mais Wikipédia a besoin de dons.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'ils font des campagnes.
Et le côté pédagogie, c'est effectivement de rappeler tout le temps que du journalisme de qualité, allons-y, n'hésitons pas, ça demande de l'argent. Et ça demande de l'argent, ça veut dire c'est payer des éditeurs. Nous avons, nous, des éditeurs, c'est-à-dire les gens qui mettent en forme les articles. C'est payer quelqu'un qui choisit la photo.
C'est payer tout le monde. C'est payer le temps donné au journalisme. Parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de l'enquête de Society.
Ah oui, j'allais vous en parler aussi. Forcément.
On a beaucoup parlé de l'enquête de Society, mais c'est une enquête de 4 ans.
Oui, et enfin, pas à temps complet non plus.
Peut-être pas à temps complet, mais en tout cas, c'est ça, ce temps-là donné au journalisme dont on a besoin pour travailler, il se paie.
Ouais. Combien d'abonnés comptez-vous ? Vous le dites ou pas ?
Ah oui, 11 000.
11 000, et à combien d'abonnés votre ligne de flottaison, disons ?
En gros, il nous en faudrait 2 000 de plus.
C'est pas énorme non plus.
C'est pas énorme, mais c'est les 2 000 plus difficiles à gagner. Mm-hmm.
Et puis surtout... Nous, on n'a pas envie de vous parliez de ligne de flottaison. On n'a pas envie de faire que avoir juste la tête hors de l'eau. Il faut.
Bah,
qu'on
c'est
ait...
un début, c'est déjà ça.
Ouais, c'est bah déjà ouais, ça.
Mais... Respirer, c'est une bonne chose.
Mais
même.
on a plein de projets de développement, et on veut aller plus loin. Et on a besoin de grimper cette marche et, avec plein de nouveaux abonnés.
Est-ce que Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre-Antoine Capton font toujours partie de vos actionnaires, même ultra minoritaires? Et est-ce que du coup puisqu'il vous faut plus d'argent, il serait possible qu'ils accroissent un peu leur participation, ou ça c'est hors de question?
Ils font toujours partie des actionnaires des jours, sachant quand même que les premiers actionnaires, ce sont les cofondateurs des jours, aujourd'hui à 70%. Et les deuxièmes actionnaires, et c'est important aussi, ce sont les lecteurs, les abonnés, via une société des amis qui leur permet d'être actionnaires de leurs médias.
Donc vous continuez à faire attention à eux, qu'ils ne prennent pas trop d'importance.
Alors, bah, là, ils ont des tout petits pourcentages, oui. En fait.
Mais ce ne serait pas une solution, du coup, pour être tranquille une autre fois pour toutes?
Ça peut être une solution. Après, il ne faut pas que le média perde son indépendance et son identité. Mm-hmm. C'est ça qui a fait couler beaucoup de médias. Hein, en fait. Mm-hmm.
On va entrer dans les jours, après la pub. Nous, on a de la pub ici. Isabelle Roberts et Raphaël Garrigo sont les invités de Culture Média ce matin. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Oui, bien sûr. Raphaël Garrigo, c'est Isabelle Roberts pour les jours, sont les invités ce matin de Culture Média. 147 séries depuis la naissance des jours. Je ne sais pas compter, c'était écrit un site d'info indépendant qui raconte l'actualité en développant ses obsessions. Est-ce que la notion d'obsession ne s'est pas un peu diluée au bout de 4 ans, Raphaël Garrigo? Forcément, comme on développe beaucoup d'histoires, les obsessions se restreignent un peu, non? Ou c'est une impression?
Non, nous, ça reste toujours notre terme préféré pour parler de nos séries, qui sont donc les obsessions, c'est ces choix qu'on va faire dans l'actualité, où on va gripper un sujet et plus le lâcher, justement pour aller au-delà de l'écume d'informations qu'on déplore tous en permanence. Non, j'ai l'impression que si on avait encore les moyens, on pourrait faire beaucoup plus d'obsessions. Chaque jour, on a une nouvelle idée d'obsession.
Ouais, alors les choix sont fondamentaux, ça fait partie de notre métier, mais peut-être plus quand on n'a pas des moyens illimités. Isabelle Roberts, comment faire pour ne pas se planter? Ça devient fondamental. Quels sont les critères pour que vous lanciez une obsession, une série?
Alors déjà, c'est un sujet qu'on va aller chercher dans l'actualité. Qui va nous sembler important. Alors parfois, on ne va pas être là au moment pile de l'actualité. On va se donner le temps de réfléchir, de trouver un vrai sujet, de trouver un mode de narration pour ce sujet.
C'est quoi un vrai sujet ?
Un vrai sujet, c'est un sujet de fond. Et après, c'est ce que vous disiez, ça fait partie d'une ce qui est une ligne éditoriale, ce qui définit la ligne éditoriale d'un média. Ça va par exemple être les violences faites aux femmes au travail. On a une série, une obsession qui s'appelle Le sale boulot, qui raconte ça. Ça va être aussi des choses beaucoup plus ancrées dans l'actualité. Par exemple, pendant le confinement, on a fait deux obsessions, une sur le confinement, une sur le déconfinement, parce qu'on ne s'intéressait plus qu'à ça.
Ouais, après, alors, tout le monde le faisait, mais encore fallait-il trouver une façon de le faire, on est d'accord.
Exactement, mais alors, pour le coup, le mode sériel fonctionne parfaitement, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des... Nous, on a des personnages au jour, et on a pu aller voir ces personnages régulièrement, et il y en a certains qu'on n'a pas lâchés d'ailleurs, même après le déconfinement, parce qu'on avait par exemple interviewé un urgentiste de Colmar à plusieurs reprises, et on a continué à le suivre dans une nouvelle série qui s'appelle Urgence, qui se passe aux urgences de Colmar, qui raconte justement comment ça se passe dans un service d'urgence après le Covid.
Et un bon personnage de série en termes d'actualité, c'est quoi en fait ? Raphaël Garrigo, c'est quelqu'un qui parle autrement, qui est cash, qui a de la profondeur ?
Bah, disons que c'est quelqu'un qui nous donne un accès, en tous les cas, assez ouvert à sa vie. Alors quand c'est Yannick Godvalès, le médecin des urgences de Colmar, c'est assez simple. Quand c'est des personnages qui sont dans l'actualité, quand c'est Emmanuel Macron, tout ça, c'est Emmanuel Macron est un personnage des jours. Oui. Après, quand c'est un personnage anonyme, comme on en a vraiment beaucoup aussi. On n'est pas dans la fiction non plus, donc il faut que ce soit quelqu'un qui vit vraiment la problématique d'actualité qu'on cherche à expliciter.
Alors, oui, et qui aussi accepte de recevoir les jours, d'avoir les jours au basque tout le temps. Hein.
Est-ce que à ce jour vous avez des succès sur certaines obsessions qui vous ont même étonné, des exemples de succès de séries des jours? Qu'est-ce qui a bien marché?
Qu'est-ce qui a bien marché? En ce moment, on en a une qui marche très bien. C'est sur Tiffany Véron, la disparition de Tiffany Véron il y a 2 ans au Japon. Pour en revenir aux faits divers, hein, qui sont aussi ça montre que c'est un. On peut aller faire de l'investigation dans les faits divers aussi.
Oui, c'est Caroline Gardin, je précise, ouais. qui est retournée sur les pas de cette Française qui a disparu. Et on ne sait toujours pas comment, au Japon, il y a pile 2 ans. Alors prenons cet exemple, parce qu'il se trouve que je l'ai lu. Je n'ai pas pu tout lire, mais ça j'ai lu. Comment procédez-vous? Quel budget? Et quelle est votre plus-value? Et est-ce que vous espérez la retrouver? Par exemple, quand on parlait de Society et Dupont de Ligonnès, la grosse enquête, au départ, ils pensaient éventuellement retrouver Dupont de Ligonnès. Est-ce que vous, ça fait partie de vos ambitions quand vous lancez une telle enquête?
Bah, disons que le but, si elle était retrouvée, si notre enquête participait à la retrouver, ça serait évidemment formidable. Si pour la famille qui la cherche depuis 2 ans. Mais le premier enjeu, c'est de raconter comment une jeune femme française qui adore le Japon va dans cette société qui nous fascine et qui en plus est une société très sécuritaire où on disparaît pas comme ça, ou alors c'est un phénomène qu'on appelle au Japon les évaporés, des gens qui décident de disparaître comme ça. Et là il y a ce côté d'une police japonaise qui au départ ne fait pas grand chose jusqu'à ce que la famille depuis la France remue ciel et terre, interrompt une rencontre entre Emmanuel Macron et Shinzo Abe, le Premier ministre, pour faire avancer ses pions. C'est ça qui va nous intéresser. Dans le fait divers, nous, on essaie à chaque fois d'avoir une autre problématique que le fait divers lui-même, que le côté criminel, si vous voulez. On a une série, par exemple, qui s'appelle Le Grêlé, qui suivait un serial killer qu'on n'a jamais retrouvé en France.
Qui a très bien marché, Le Grêlé.
Qui a très très bien marché. Mmh. Et ce qui était intéressant dans cette histoire-là, c'était de raconter aussi l'évolution de la police scientifique et des techniques de la police. On essaie à chaque fois d'avoir un propos autre que le fait divers lui-même.
Quelles sont vos prochaines séries annoncées? Un petit peu d'infos, quoi, vous voyez.
Un petit peu...
on va avoir une belle rentrée.
Ouais,
on va avoir une belle rentrée.
On a beaucoup de choses. On sera sur le procès Charlie Hebdo, qui démarre tout début septembre, parce que là, il fallait qu'on soit là. Quand vous parliez de choix, là, c'était impossible qu'on n'y soit pas. Et donc, on va avoir une série là-dessus. On va avoir une série sur un grand groupe de surveillance dont on ne peut pas dire grand chose pour l'instant. On va avoir une série qui va s'articuler sur la fin du monde et la fin du mois, qui va être certainement très bien. Une autre histoire de gendarme.
Donc en relation avec les Gilets jaunes, probablement.
Oui.
Oui, c'est ça. Et votre campagne démarre quand?
Notre campagne démarre en septembre, mais tous ceux qui veulent s'abonner peuvent commencer dès maintenant.
Il y a aucun problème. Lesjours.fr.
Lesjours.fr. Et comme voilà, vous êtes peut-être inquiet pour la rentrée, on a un petit message d'encouragement pour les jours d'un de vos personnages, sinon préférés, du moins qu'on peut lire.
Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction.
Voilà, de rien. Merci beaucoup,
Président.
Merci Isabelle Roberts, merci Raphaël Garrigos. Merci. Les jours sites indépendants, allez donc voir, c'est sur abonnement. Et ça, voilà, on peut l'avoir pour
9 et 5 euros,
voilà. Merci, on arrive tout doucement vers 10h dans Culture Média. Dans la seconde partie de cette émission, nous allons chercher la fraîcheur avec le jardinier du château de Versailles, Alain Baraton. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.